Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour votre rendez-vous tech du week-end. C'est De quoi je me mêle. On est, vous le savez, présent à la fois sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01net.com, le dimanche matin sur BFM Business à la radio et à la télé. Et vous pouvez bien sûr réagir au contenu de ce De quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Et puis bien sûr, nous rejoindre sur la page Facebook avec un De quoi je me mêle spécial Club de la presse IT. Beaucoup, beaucoup de choses cette semaine à se raconter, à analyser. Je vous présente tout de suite nos deux spécialistes, nos deux experts que vous connaissez. Merci d'être là et bienvenue. Le Club de la presse IT avec cette semaine Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas.
Bonjour François. Bonjour
Nicolas Lelouch, journaliste à 01net.com, accompagné de Emmanuel Paquette.
Bonjour François.
Bonjour Emmanuel, Nicolas. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Journaliste à l'Express. Ben, vous n'êtes pas venu pour rien les amis aujourd'hui, hein, parce que l'actualité est bien dodue,
c'est
comme
vrai,
on dit.
C'est
on va parler de la WDC dans quelques instants, la WWDC, parce qu'il y a deux W, c'est important. On va parler aussi d'Apple Music, on va parler de cette panne Internet qui a paralysé pendant quelques minutes pas mal de services. Emmanuel va tout nous dire là-dessus. Google condamné aussi concernant la publicité en ligne. Est-ce qu'on pourra regarder l'Euro 2000 en 4K. Nico a la réponse. Ça sera dans quelques instants. Et puis quelques petites rumeurs du côté de Google avec peut-être un nouveau Pixel pliant. Et puis Micromania aussi qui sort une offre assez étonnante. Voilà, tout ça, c'est un peu toute l'actualité qu'on va aborder aujourd'hui. Et on va commencer, messieurs, par FaceTime. Le service, on va dire, de vidéo sur IP, de visio, mais d'audio hein, d'Apple, qui s'ouvre en fait à des systèmes concurrents, Nicolas.
C'était peut-être la plus grosse surprise de la WWDC.
Ça nous a scotché.
Oui, c'est étonnant. Après, on va calmer le jeu directement. Il n'y a pas non plus une application FaceTime qui va débarquer sur Windows et sur Android. Ce qui va se passer, c'est que FaceTime va devenir un concurrent de Zoom, de Google Meet, de Microsoft Teams, de tous les logiciels de vidéoconférence qui ont explosé pendant les différents confinements. L'idée est assez simple. Vous pourrez commencer un appel sur un iPhone, un iPad ou un Mac. Et si vous voulez, vous pourrez générer un lien que vous envoyez à vos correspondants pour qu'ils rejoignent cet appel FaceTime. Et ce lien, sur un iPhone, un iPad, un Mac, bah, il ouvrira l'application. Et si vous êtes sur une autre plateforme, donc Windows, Android, mais évidemment toutes les autres plateformes qui... Il suffit d'avoir un navigateur web hein, pour que ça fonctionne. Vous pourrez participer à un appel vidéo FaceTime directement depuis votre navigateur, comme sur Google Meet, comme sur Zoom. Ce qui va donc ouvrir pour la première fois le logiciel de vidéoconférence d'Apple aux plateformes externes. Ce qui est marrant pour anecdote, c'est que quand Steve Jobs a dévoilé FaceTime en 2010 avec l'iPhone 4, il avait dit, et tout ça c'est open source, FaceTime ça sera le standard pour tous les téléphones,
oui,
et
vrai.
Tout le monde pourra l'avoir. On a appris ensuite hein, qu'ils étaient un petit peu excités tout seuls sur cette annonce, parce qu'il n'avait pas vraiment discuté avec les autres ingénieurs d'Apple. Et
il était vite monté sur scène.
Il s'est dit, ça pourrait être cool de faire le standard et que FaceTime devienne hyper commun. En soi, ça a réussi parce qu'aujourd'hui, on dit oui, je te FaceTime. Donc, c'est devenu hyper commun, mais ça restait réservé aux appareils Apple et bientôt, ça sera ouvert à la concurrence.
Mais ça veut dire que je ne pourrais pas passer, par exemple, d'un iPhone un appel vers un Windows ou un Android, puisque je n'aurais pas de notification, finalement, puisque c'est un lien qui passe par un navigateur. Je pourrais rejoindre, en fait, une conversation.
On pourra rejoindre à partir du lien. Donc, vous aurez une notification par SMS, par exemple. Vous pouvez envoyer un SMS à quelqu'un qui a un appareil Android ou envoyer un message sur Messenger.
Enfin, c'est moins fluide, quand même.
Pas aussi fluide. L'autre interrogation, c'est est-ce qu'on va pouvoir créer un appel FaceTime depuis un PC ? Comme ça, on pourrait penser que non. Maintenant, ce qu'on a vu de la démonstration d'Apple, c'est qu'il y aura un site qui sera facetime.apple.com. Ce sera ce site-là qu'on rejoindra quand on répondra à un appel. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas la possibilité de créer un appel programmé depuis ce site ? Peut-être. Apple, encore pas très clair.
Il va falloir se créer un identifiant.
Bonne question. Il faut très certainement un identifiant Apple, mais en soi, pourquoi pas ne pas en avoir. Apple n'a pas dit du tout ce qui allait se passer. Ils sont pas rentrés dans les détails pour l'instant.
Ça arrive.
C'est pas encore disponible dans la bêta d'ailleurs d'iOS 15 et de macOS Monterey. Je crois que ça se dit comme ça. Donc il faudra attendre cet automne et certainement cet été avec les bêtas publiques pour voir à quoi ça va ressembler.
Emmanuel, cette volonté d'Apple d'ouverture.
d'ouverture, de semi-ouverture, de comme disait Nicolas.
D'entrebâillement de porte,
ouais,
on va dire.
Pas
un petit peu.
S'emballer non plus.
Ouais, ouais, faut pas s'emballer.
C'est un premier pas, disons. Mais ouais. Je pense qu'Apple, ils n'ont pas vraiment le choix, parce que comme le disait Nicolas, il y a eu une explosion de la visioconférence lors du télétravail, hein, et qui va vraisemblablement se pérenniser dans les mois qui viennent. Donc ça, effectivement, c'est le premier point. Et puis, ils utilisent le système, hein, qu'on utilise aujourd'hui sur Zoom ou sur Microsoft Teams ou même sur Google Meet. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on lance une visioconférence, on nous envoie un lien pour nous connecter, donc c'est quand même la même logique, hein, de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture. Mmh. En revanche, je pense, mais là c'est juste une interprétation de ma part, que Apple est obligé d'aller vers ces visioconférences, puisqu'on en a déjà parlé dans cette émission. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est la réalité augmentée et tout ce qui est holographique à l'intérieur de ces visioconférences. Google a son projet sur lequel il travaille actuellement, on l'a évoqué ici, et c'est pareil du côté de chez Microsoft. Donc on sait très bien aujourd'hui que la réalité augmentée, ça fait partie de la grande stratégie d'Apple, et s'ils veulent permettre ce type de technologie de rentrer dans le monde de l'entreprise pour avoir une vision conférence un peu 2.0, hein, où simplement on ne se retrouve pas tous assis autour d'une table à discuter voilà, à distance autour d'un micro, mais d'avoir des éléments un peu plus ludiques, un peu plus animés, ils sont obligés de prendre ce train-là et de s'ouvrir un peu plus.
Bon, attention, FaceTime ne dit pas e-message, hein ?
Non,
c'est parce que souvent, on se dit, bah tiens, c'est à peu près le même service, etc., j'étais e-message, on sait un FaceTime. E-message reste une exclusivité de l'environnement Apple pour l'instant.
Oui, il y a eu des rumeurs de dernière minute avant la conférence comme quoi ils allaient ouvrir e-message et Android. Ça, pour moi, ça aurait été cohérent, surtout avec toutes les enquêtes antitrust qu'il y a en ce moment. Ça aurait été un super message d'Apple de dire « Ah, regardez, on n'est pas si fermé que ça ». Ce n'est pas le cas. iMessage, ça reste exclusif aux plateformes d'Apple. Maintenant, à partir du moment où FaceTime débarque sur le web, potentiellement un jour une application, pourquoi pas dans le futur, imaginer une grosse application de messagerie Apple qui serait dispo partout. Je pense qu'on en est encore loin, mais c'est un premier pas qui montre que c'est possible du côté de Cupertino d'aller dans ce sens.
Ouais, et puis quand on voit que WhatsApp est malmené en ce moment, une mauvaise image avec ses conditions d'utilisation qui change rien, mais qui devait changer les trucs et tout, on aurait pu se dire, bah tiens, Apple aurait pu se servir de cette brèche-là pour proposer un e-message avec toujours ce discours de sécurité, vous êtes chez Apple, ne vous inquiétez pas, on ne va pas exploiter vos données de vie privée, etc. Peut-être que ça viendra plus tard, finalement.
Hein. C'est possible, effectivement, ils avaient un coup à jouer, alors ils l'ont joué ailleurs, hein, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait un moyen de dire, on a une messagerie chiffrée, nous, on ne fait pas de publicité, on ne vit pas de ça, donc on ne va pas faire discuter différents éléments de l'écosystème Apple pour enrichir des annonceurs éventuels, enfin nous-mêmes et des annonceurs pour y déployer de la publicité. Donc effectivement, il y avait un coup à jouer. Ce qui est étonnant, c'est plutôt de l'autre côté. C'est Facebook qui, eux, ont commencé à baisser les commissions sur les applications qu'on peut télécharger sur Facebook, et en disant, nous, vous voyez, on ne fait pas une commission à 30%, donc le mauvais coup, le sale coup, il est plutôt venu du côté de Facebook, de Zuckerberg, qui pendant la WWDC a quand même pris la parole en disant nous, bah voilà, on ne prendra quasiment peu de commissions puisqu'on ne vit pas de ça, et on veut faire émerger les PME, les petites entreprises, on veut leur faciliter la vie. Et là, c'était quand même un peu le coup de pied de l'âne, comme on dit, directement à Apple. Hein.
Ah, c'est voilà, on est dans un monde de bisounours, hein, c'est sympa, hein, quand même, tout ça. Allez, la WWDC, donc, c'était, vous étiez peut-être avec nous d'ailleurs lundi soir sur 01TV, puisqu'on vous a retransmis cette keynote en direct avec les explications de toute la rédaction. Alors, beaucoup de nouveautés, on ne va pas, bien sûr, toutes les détailler, parce qu'autrement, il nous faudrait beaucoup, beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu retiendrais de cette WWDC, Nicolas ? Et puis après, on donnera bien sûr la parole à Emmanuel.
Oui, rappelons que la WWDC, c'est la grosse conférence développeur d'Apple. C'est pas une keynote comme les autres événements, parce que là, les développeurs sont conviés. On présente des choses sur le moyen, sur le long terme. Moi, ce que je retiendrai, c'est déjà qu'Apple a cette année fait le choix de ne pas lancer de mise à jour majeure avec de très grosses nouveautés, mais plutôt de se contenter de plein de petites nouveautés. Et c'est plutôt une bonne chose généralement, parce que c'est ces années-là où on a les OS les plus stables. Apple, il y a leur OS de référence, c'est Snow Leopard, qui était le système des Mac le plus stable de l'histoire, qui était super bien, et qui avait aussi la particularité d'avoir plein de petites nouveautés, mais pas de gros changements disruptifs. C'est un peu pareil cette année, notamment les centres de notification qui s'améliorent. avec un design un petit peu plus joli, plus fin, l'arrivée d'un mode focus qui permet en fait de faire déjà ce qu'on faisait avec le mode ne pas déranger, mais de l'étendre, c'est par exemple un mode travail, un mode maison, un mode vacances, pour avoir moins de notifications et pour être dérangé que par ses vrais proches.
On se crée ses propres mini-profils en quelque
sorte. Exactement, on crée son propre ne pas déranger. En soi, c'est pas révolutionnaire, parce que ne pas déranger était déjà là, mais le fait de l'ouvrir à des modes personnalisés, c'est une nouveauté assez cool. Il y a plein de changements esthétiques, par exemple la nouvelle application météo qui va vous donner des informations pratiques, vous dire voilà, la crème solaire aujourd'hui jusqu'à 18h, après vous en aurez plus besoin, faire une carte de l'indice UV.
C'est dommage, ça arrivera en octobre.
C'est un peu dommage, en effet. Certains l'auront en bêta
pour l'année prochaine, pour l'été 2022. Ouais, écoutez, voilà.
Ceux qui sont aventuriers ici pour installer la bêta à partir du mois de juillet, donc ouais, ils pourront en profiter. L'application Plan, qui malheureusement on n'a pas encore en France toutes les nouveautés, mais il faut reconnaître que c'est très prometteur et la direction que prend Apple, ça va peut-être leur permettre d'enfin rattraper Google sur la carte. Et évidemment, se mettre au même niveau sur la réalité augmentée, par exemple. Mais le travail qu'ils font depuis quelques années de mapper l'intégralité de la planète, des grandes villes, fait qu'ils ont une carte ultra précise où ils répliquent chaque arbre, chaque poteau, ils sont capables de dire où est une piste cyclable et où est une voie de bus sur la route, tout ça en 3D, donc ça risque de faire quand même pas mal de dégâts quand ça va arriver, car ça sera plus complet que Google Maps. Et moi, la nouveauté que je retiens le plus côté iOS, c'est SharePlay. Ça va peut-être pas concerner tout le monde. Pour SharePlay, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction qui va vous permettre, quand vous êtes dans un appel FaceTime, de regarder un film, d'écouter de la musique ou de partager votre écran à plusieurs. Et moi, par exemple, pendant le confinement, j'ai souvent voulu regarder des films avec des amis. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se calait sur Netflix. Allez, t'es prêt ? 3, 2, 1, on appuie sur Play en même temps. Si quelqu'un veut aller aux toilettes, c'est reparti pour 10 minutes de calibration. Et ne parlons pas des problèmes sonores, parce qu'on a une oreille son ami au téléphone et une oreille le film. Là, on va avoir vraiment un système bien géré avec le film qui prend 100% du volume, et si quelqu'un parle, ça baisse le volume du film pour entendre la personne. Je trouve que c'est bien fait, le fait que ce soit tout l'écosystème Apple, ça va faire qu'on peut regarder un film sur sa télé en étant au téléphone sur son téléphone, sur son iPhone, donc c'est plutôt bienvenu, donc j'ai hâte de voir tout ça et je trouve que les nouveautés sont plutôt encourageantes.
Des nouveaux usages, hein, étonnants. Hein, le fait
peut-être
de regarder.
Un peu trop tard, par contre.
Oui, ça arrive peut-être un peu trop tard. Espérons que ça arrive trop tard
et voilà, qu'Apple ne soit pas juste pessimiste et
en effet,
bien prédicteur.
Emmanuel, qu'est-ce que tu retiens de cette WWDC ?
Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment le renforcement de la protection de la vie privée des utilisateurs de tout le matériel, de tous les matériaux et toutes les OS d'Apple, puisqu'en l'occurrence là ils ont donc déclaré quand même quelque chose qui peut faire très très mal à l'industrie de la publicité, des annonceurs. Donc les utilisateurs de Safari, en se rendant sur donc différents sites, leur adresse IP, donc c'est cette adresse qui est liée à votre connexion internet, hein, donc qui identifie pas nécessairement vous, mais en tout cas votre accès internet, en fait Safari va bloquer l'accès à l'adresse IP à tous les annonceurs. Donc ils n'auront plus d'éléments pour qualifier d'où viennent les gens, puisque l'adresse IP permet de savoir à peu près où on est localisé, dans quel pays, voire dans quelle ville. Donc ils vont perdre, et puis surtout si on revient sur le site, on voit que la même adresse IP revient, donc on sait que la même personne revient, et donc on peut leur servir des publicités.
C'est comme s'il y avait un VPN en fait dans Safari. Comment ça fonctionne cette histoire-là ?
Alors je ne sais pas comment ils vont bloquer l'IP.
Je peux l'expliquer, j'ai pu en parler un peu avec Apple. En soi, c'est un VPN, sauf qu'Apple dit ce n'est pas un VPN, n'appelez pas ça un VPN, c'est en quelque sorte son propre système. Enfin, c'est comme ça que c'est expliqué.
Mais pour qu'on comprenne bien, c'est un peu un VPN.
L'idée, c'est qu'il va y avoir deux serveurs relais, ça s'appelle Private Relay, le service Apple. Il y a deux serveurs au moment où vous allez vous connecter et taper une adresse URL. Il y a un serveur sur lequel ils vont donner votre adresse IP, et le serveur va changer l'adresse IP et créer une adresse IP temporaire et envoyer cette adresse IP temporaire à un autre serveur. Et c'est ce serveur-là qui va recevoir l'adresse sur laquelle vous vous connectez. Donc en fait, l'adresse à laquelle vous allez vous connecter ne sera jamais reliée à votre adresse IP, elle sera reliée à une autre adresse IP. Donc en effet, ça grille complètement la carte de la localisation et la carte du flicage en ligne. Et on va se retrouver avec c'est le risque, hein. Vous allez avoir des pubs peut-être en allemand ou en suédois sur votre, sur votre ordinateur.
Oui, parce que l'adresse IP qui va être créée appartiendra peut-être à quelqu'un.
Elle peut être, on a deux options, soit c'est loin, donc ça ne va pas ressembler, on ne peut pas choisir, Apple ne veut pas qu'on choisisse un pays. Ce n'est pas un VPN qui va permettre de contourner Netflix en ayant le contenu américain, vous ne choisissez pas le pays, mais vous pouvez avoir une localisation approximative. Donc voilà, par exemple, là on est à Paris, il va nous localiser dans une ville d'Île-de-France, donc ça va permettre d'avoir une météo à peu près précise si on la recherche. Mais dans tous les cas, ça, là où je suis d'accord avec Emmanuel, c'est un changement majeur, parce que c'est activé par défaut. Safari, c'est l'OS, le navigateur majoritaire sur iOS en tout cas. Donc ça va...
Deuxième au niveau mondial, hein, derrière Chrome.
Ça risque de faire très très mal.
Deuxième au niveau mondial, Safari
Je crois, ouais, de mémoire, hein, parce que derrière Firefox, c'est passé en troisième position.
Ah ouais. Incroyable.
Bah, avec la base installée d'iPad, d'iPhone, etc.
Puis oui, bien sûr. Oui,
du
oui.
coup, ça a quand même pas mal bénéficié à Safari, ouais, effectivement. Bon. Et puis l'autre élément, c'est le mailing. Alors là aussi, ça détruit le marketing direct. C'est que, vous savez, aujourd'hui, quand on reçoit un mail, généralement, il y a ce qu'on appelle un pixel caché dans le mail, qui fait que quand on ouvre le mail, celui qui vous l'a envoyé sait combien d'ouverture de mail a été générée lors de l'envoi. Mmh. Et il sait à peu près par qui. Là, Apple va empêcher ce genre d'informations d'être transmis lorsqu'on utilisera, alors je ne sais pas quel type de messager, alors probablement pas Gmail hein, par exemple, mais ils vont bloquer donc ces pixels cachés à l'intérieur des emails. Donc là aussi, ils s'attaquent d'une part à la publicité avec l'adresse IP dont on a parlé précédemment, et puis ils s'attaquent au marketing direct et aux mailings massifs qu'on envoie. Donc il n'y aura plus d'intérêt à envoyer des mails parce qu'on ne saura plus qui les a ouverts, quand, comment. Franchement, ils vont se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Hein.
C'est dingue. Attends. Et alors ça n'a rien à voir avec la nouvelle version de iCloud, iCloud Plus.
Alors ça, c'est les fonctions d'iCloud Plus.
Ah, d'accord.
C'est aussi, oui, la limite de tout ça, c'est que c'est exclusif à ceux qui payent pour iCloud. Donc il faut payer au minimum 1€ par mois.
C'est-à-dire que tous ces services qu'Emmanuel a évoqués ne sont pas gratuits.
Non, c'est pas gratuit.
D'accord,
si vous avez
défaut...
la formule 5Go d'iCloud, vous ne les aurez pas. Par contre, à partir du moment où vous payez pour 50Go, 200Go ou 2Tera, vous aurez accès à tous ces services.
Donc, ça veut dire que si j'ai pas iCloud, par exemple, ou si j'ai la formule gratuite à 5Go, mon Safari ne sera pas protégé, en quelque sorte.
Il ne sera pas protégé. Je ne sais pas pourquoi.
C'est pour inciter les gens à prendre l'option, sans doute.
Sans doute, mais ils auraient pu, voilà, dans leur message de vie privée...
Dans leur infinie bonté, ça
arrivera,
c'est ça.
Exactement, ça arrivera peut-être un jour. mais le seul truc qu'il faut se dire, c'est qu'Apple fait tellement de pressing, ils sont tellement... relou, on va dire, envers les utilisateurs pour les forcer à upgrader vers une option payante d'iCloud, que même si aujourd'hui ils refusent de communiquer un chiffre, on peut facilement imaginer qu'au moins la moitié des utilisateurs d'iPhone payent pour iCloud.
Ouais. Donc ça veut dire que c'est un service qui est gratuit pour eux finalement.
C'est pas un service qui va concerner 5% de la base d'utilisateurs, ça va concerner beaucoup.
Alors moi, ce que j'ai compris, mais peut-être je me suis trompé, hein, c'est que quand on est abonné à iCloud, puisqu'en l'occurrence je le suis, de base, j'aurais pas ces services-là. Il faudra, pour basculer sur iCloud Plus, je devrais rajouter un peu d'argent.
Hein. iCloud Plus est gratuit pour ceux qui possédaient un plan iCloud de stockage. Tu es déjà abonné à iCloud Plus actuellement. À partir de septembre, ça aura le nouveau nom. Il y a vraiment l'offre 5Go iCloud et toutes les autres offres deviennent des offres iCloud Plus et ça ne coûtera rien.
Dès qu'on commence à payer,
on n'a pas ajouté un forfait pour.
D'accord. Plus. Okay.
Bon, écoutez, voilà, hein, on aura le temps de digérer toutes ces informations.
Oui, c'est nouveau. C'est toujours le problème avec la WWDC. Il faut généralement 3 semaines pour avoir tout compris.
Exactement.
Ah, d'accord, j'avais pas compris ça.
Tu as installé la bêta d'iOS 15.
Oui.
Alors, ça va. Ça marche ?
Après c'est ce que je disais, hein, c'est un peu une année où avec plein de petites nouveautés, voilà. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé
l'exploitation.
Hein.
Okay.
Mais je ne le recommande pour l'instant pas parce qu'il y a encore des problèmes, ça chauffe. Attendez la bêta publique, mais ça m'a l'air d'être bien parti.
On termine avec Apple et donc la mise en route de cette offre Apple Music IFI, hein, et avec aussi l'audio spatial. Ça y est, les vannes ont été ouvertes à partir du moment où vous êtes abonné à Apple Music sans supplément de prix, vous avez pas mal d'options supplémentaires. Tu as pu tester, Nicolas.
Oui, on va nous dire, vous parlez beaucoup trop d'Apple aujourd'hui, désolé, mais c'est la semaine de la WWDC,
ouais, voilà,
on n'y peut rien.
Écoutez, il y a beaucoup d'actualités, hein, liées à Apple, et puis après on parlera d'autres choses. Hein, il y a beaucoup d'infos.
Le dernier point Apple, donc j'ai pu tester ces nouveautés Apple Music. Il y a deux choses qui arrivent sur le service en même temps, le lossless, donc la musique sans perte de qualité, et le spatial audio, donc en fait c'est l'adaptation du format Dolby Atmos qui était déjà chez d'autres concurrents. Le lossless, moi j'ai donné mon avis, hein, je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Je trouve que c'est inutile. ça touche un public extrêmement ciblé. Il y a des gens qui... payer pour d'autres services qui vont être ravis d'avoir le lossless, et c'est très bien que ce soit gratuit, très bien que ce soit intégré à Apple Music, mais de mon avis, en tout cas de mes oreilles ne sont incapables de voir la différence, même avec un équipement haut de gamme, c'est limité uniquement au filaire avec un DAC branché à son appareil, c'est vraiment pas un service grand public. Même Eddie Q, qui est le grand patron des services chez Apple, a confié en interview qu'ils ont fait un blind test dans les équipes d'Apple et qu'il y a 99% des gens qui ne voient
pas
la différence,
Donc, d'accord.
Ça reste un produit très élitiste. Le spatial audio par contre c'est un peu plus intéressant. C'est activé par défaut sur les AirPods et ça peut être activé sur tous les casques dans les réglages. C'est pas une fonction exclusive au casque d'Apple et c'est bien de le dire parce que...
Oui, parce que c'était assez flou de la part d'Apple, cette communication.
C'est un peu dommage de pas l'activer par défaut du coup.
Voilà. Parce qu'on pensait que c'était une spécifique cité technique en fait de la puce qu'il y a aujourd'hui dans les AirPods et qui permettait ce son un peu Dolby Atmos quoi en quelque sorte
C'est pas le cas, n'importe quel casque peut, mais il faut aller dans les réglages musique et activer le Dolby Atmos pour tous les appareils. Une chose est sûre avec le spatial audio, on voit la différence. On l'entend, pardon, on ne voit pas vraiment, c'est difficile de voir du son. On entend la différence, mais je ne suis pas forcément convaincu que ce soit bon à tous les coups. Il y a quelques morceaux où on se dit, oui, c'est bien, c'est hyper bien répliqué, il y a vraiment
environnement. En fait, on a un élargissement en fait, de l'espace sonore,
le
c'est ça.
Le son vient du dessus, de derrière.
D'accord.
On voit, encore une fois, on voit, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de différent avec le Dolby Atmos.
On parle beaucoup d'images sonores, finalement,
oui,
aussi.
On peut parler d'images sonores, en effet. Merci de m'aider, François.
Je t'aiderai, je serai toujours là pour toi.
C'est gentil.
Nicolas. Tu vois, quand tu seras au bord d'un précipice, je te rattraperai.
Là, j'étais pas loin. Donc tout ça pour dire que je trouve que c'est une nouveauté intéressante, mais pour l'instant, le nombre de morceaux sur lesquels je me suis dit, c'est quand même beaucoup mieux, c'est assez léger. Donc en tout cas, c'est bien d'avoir ça. Et Apple Music, surtout au même prix, ils font du mal à la concurrence.
Oui, c'est ça, Emmanuel. C'est que là, c'est quand même un pavé dans la mare pour toute l'offre de streaming audio du marché, en fait. Les Spotify, les Deezer, etc.
Oui, effectivement, parce que Deezer, sur son pack famille, notamment, voulait augmenter de 2 euros, en tout cas annoncer une offre de 2 euros supplémentaires pour avoir accès au... Alors, Hi-Fi, Wi-Fi, je ne sais pas comment on dit, mais bon, voilà, comme vous voulez, en français ou en anglais. Donc, effectivement, parce qu'ils voulaient en profiter pour augmenter le coût de certains types d'abonnements. Et là, c'est vrai que c'est compliqué de répliquer Apple, puisque Apple peut s'appuyer sur sa trésorerie, sur ses activités annexes pour financer ce type de choses. Quand on est un pur player comme Spotify ou Deezer, c'est plus compliqué, parce que
c'est vraiment le nerf de la guerre.
Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que, pour le coup, c'est compliqué. Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que on oublie que c'est un petit Français qui, au départ, avait parié sur le lossless. C'était Cobuzz, d'Yves Rizel, qui lui-même a fait un long post sur Internet, si vous avez l'occasion de le lire, qui est assez intéressant. Oui. Il dit qu'il avait raison, mais trop tôt. Bon, voilà. Et que finalement, toute l'industrie l'a suivi. Et que depuis le début, il explique surtout comment il s'est battu auprès des majors pour essayer de récupérer ce fichier son originel de haute qualité.
Parce que les droits ne sont pas les mêmes, visiblement.
C'est pas les mêmes, exactement. Et surtout, les majors, au début, disaient, mais pourquoi vous voulez ça? Et donc, ce qui est marrant, c'est de voir l'évolution du secteur, qui au début, même les majors elles-mêmes, n'étaient pas vraiment intéressées par ça. Et puis, on voit le glissement jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous incite à aller lire ce poste de blog d'Yves Rizel qui
n'est plus d'ailleurs à la tête de Cobuzz,
il
est parti, il a revendu sa société.
Mais il a une très bonne connaissance du secteur et c'est vrai que c'est toujours intéressant de lire ce type de propos.
Voilà. Est-ce que ça va laisser certains acteurs sur le bord de la route, cette histoire-là? Parce que c'est vrai, est-ce qu'un Deezer a les épaules assez larges pour encaisser ce même tarif pour en proposer plus? Et d'après ce que j'ai compris, en fait, tout ça est dû à une nouvelle négociation avec les majors que Apple aurait entamée et aurait négocié, en fait, d'avoir les mêmes droits avec l'ARS qu'avec le son traditionnel, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'augmentation de prix. C'est que finalement, ça ne coûte pas plus cher à Apple. Et ce deal, en fait, est global. Il est aussi valable pour tous les autres fournisseurs de streaming audio. Donc, voilà, ça ne coûtera pas plus cher aux autres, aux Spotify, aux Deezer, mais en revanche, ils ne gagneront pas plus d'argent. C'est ça le souci.
Exactement. Hein. Oui.
Mais ils vont être obligés, Spotify va être obligé de réagir. Parce qu'au bout d'un moment, il y aura une fuite d'abonnés qui vont vouloir, même si tu dis que c'est du marketing, et on peut le croire, il y a plein de gens qui vont dire, finalement... j'aurai de l'audio spatial, je vais avoir de l'ARS, c'est mieux que...
C'est pas du marketing, parce que techniquement, il y a une différence, le fichier.
Oui,
beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros.
Mais c'est que nos oreilles...
C'est, juste que c'est, c'est ça. Les personnes qui vont vraiment profiter à 100% sont très. C'est pas beaucoup.
Bien sûr.
De, beaucoup
il faut
de
avoir vraiment une oreille très très fine.
Mais c'est sûr que dans tous les cas, la réponse de Spotify est très attendue parce qu'on sait que Spotify réfléchissait déjà à augmenter le prix de 1 ou 2 euros pour l'abonnement de base, donc l'abonnement sans Hi-Fi. Mm-hmm. Il n'avait pas communiqué sur l'arrivée, sur le prix de, ce, de son abonnement ou de fidélité. Mm-hmm. Donc maintenant qu'Apple fait tout ça au même prix, comment justifier une augmentation sur une offre standard et rien derrière? Donc c'est, pour eux, c'est compliqué. C'est sûr que Apple a bien piégé l'industrie. Le seul qui a suivi au même prix pour l'instant, c'est Amazon. Mais oui. C'est pareil.
Qui s'est aligné, mais quelques minutes après le communiqué de presse d'Apple. Hein. Franchement,
si ce n'était pas quelques minutes avant. Je crois bien que c'était une demi-heure avant le communiqué d'Apple. Donc,
c'est Tim Cook qui les a fait. Attendez, les gars, regardez ce que je vous propose.
C'est facile quand on est Amazon, mais quand on est Apple.
Parce que pour eux, c'est un détail, finalement, cette offre-là.
Ça ne change rien. C'est un service comme un autre. Ça rallie vers Apple. Quand on s'appelle Spotify, Deezer, Qbuzz ou Tidal, et le business, c'est la musique, bah, c'est quand même toute une perspective d'évolution et d'augmentation des prix qui disparaît à cause de gros acteurs. Donc
il y a quand même une différence de hardware, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, Apple et Amazon, ils ont des serveurs sur toute la planète. Donc, diffuser des fichiers plus lourds, hein, lossless, ça leur coûte rien, ils ont déjà l'infrastructure qui est là. En revanche, un Spotify, un Deezer qui n'a pas de data center sur
ils sont obligés de louer tout ça, c'est de la bande passante supplémentaire.
En fait, comme tu le disais, y a pas de... ils ne vont pas gagner plus. Alors certes, les majors vont peut-être donner le fichier au même prix, mais en coût de distribution,
ça va leur coûter plus cher.
Il va y avoir un léger impact.
Oui, parce qu'un fichier iRes, c'est énorme. Hein. Je crois qu'une chanson, c'est 100 mégas ou un truc comme ça, non ?
Il y a trois formats iRes chez Apple, mais je crois, oui, en effet.
Le très haut de gamme, c'est.
Ça monte au-dessus de 100 mégas, le morceau.
C'est énorme.
On sent la différence. Quand j'ai essayé le iRes en casque filaire, avant, quand on lançait un morceau en streaming, c'est instantané. Là, il y a 4-5 secondes de mise en cache.
Oui, de buffering avant que ça fonctionne.
En effet, il y a une petite différence.
Ouais, vous vous rendez compte, un fichier, on va dire normal sur Spotify, c'est 4-5 mégas. Et là, on passe à 100.
C'est autre chose.
D'ailleurs, écologiquement, c'est assez moyen. Hein, si on rentre... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails là. Mais on évoque tout le temps, comment dirais-je, le raisonnement et la bonne utilisation de la data, etc. etc. Ça va à l'encontre de tout ça. Apple n'en parle pas, mais mine de rien, ça consomme plus de data, plus de stockage de mémoire dans les téléphones.
Bien sûr,
c'est énergivore tout ça.
Hein. Et pour un gain, comme dit Nicolas, qui n'est pas forcément perceptible.
Exactement.
C'est pour ça que par défaut, on reste sur la qualité non haute fidélité. Par défaut, il passe sur le spatial audio, sur les AirPods, tout ça. Par contre, le haute fidélité, c'est vraiment une option à activer manuellement si on le souhaite.
On revient dans un instant, les amis, pour la deuxième partie de ce Club de la Presse IT, et on va revenir sur cette panne qui a paralysé, pas longtemps, mais bon, moi j'étais en train d'acheter un truc sur Amazon pour tout vous raconter, et d'un coup, je vois, j'étais sur mon appli, plus rien qui marchait, panique à bord, c'est vite revenu, j'ai pu faire mon achat quand même. On en parle dans un instant, Nicolas et Emmanuel vont tout nous expliquer. A tout de suite pour la suite de ce De quoi je me mêle.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle. Merci d'être avec nous. Votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. Et étant donné qu'il y a beaucoup d'actu cette semaine, eh bien on poursuit notre club de la presse IT avec toujours Nicolas Loulouge de la rédaction de 01net.com et l'Express dignement représenté avec Emmanuel Paquette qui nous fait l'amitié d'être là et nous apporter son analyse. L'actu aussi de cette semaine, elle a un peu paniqué, je pense, à la fois les acteurs du web, mais aussi les utilisateurs. C'est cette fameuse panne qui a eu lieu mardi, c'était ça, ou mercredi, je ne sais plus. Mardi, je crois. Voilà, c'était mardi, à l'heure du déjeuner. En plus, hein, peut-être l'avez-vous vécu. Voilà, certains services ont été ralentis, certains autres ne marchaient pas du tout. Une panne d'internet qui a touché énormément de services, hein, Nicolas. Hein.
Oui, beaucoup de services populaires en plus. C'est pas des petits sites qui sont tombés en panne. J'en ai noté quelques-uns. Donc on a eu par exemple Amazon, on a eu PayPal, on a eu Reddit, on a eu aussi le site de beaucoup de médias, Le Monde, le New York Times, le Guardian, 01net.com, hein, quand même. Je sais que ça a dû être pas facile pour beaucoup de personnes.
Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui criaient dans la rue parce qu'ils n'avaient plus
l'actualité
de Nicolas Lelouch.
J'ai eu plein de gens qui m'envoyaient des messages sur Twitter, on n'arrive pas à accéder à vos articles pour de vrai. Donc
Bien sûr.
Je blague là-dessus, mais forcément, il y a des réactions de plein de personnes. La panne a duré à peu près une heure. Ça n'a pas été une heure, hein, d'interruption totale pour tous ces services. Mais oui, ça nous rappelle une nouvelle fois à quel point il n'en faut pas beaucoup parfois pour faire tomber Internet.
Qu'est-ce qui s'est passé, Manuel ?
Bah, visiblement, donc, c'est un prestataire de ce qu'on appelle un Content Delivery Network, c'est un CDN qui s'appelle donc Fastly. Alors, un CDN, c'est en gros, alors il y a des gros CDN, hein, comme le plus gros, c'est Akamai, par exemple, hein, aujourd'hui, qui apporte les contenus au plus près de l'utilisateur dans des serveurs de cache, ce qui permet en fait d'avoir une réactivité beaucoup plus rapide lorsqu'on se connecte à un site. Au lieu d'envoyer sa requête à l'autre bout du monde, bah, elle peut arriver directement à Paris, par exemple, et elle revient très vite. Et on voit effectivement les pages du Monde s'afficher ou même des pages de Reddit ou d'autres.
Ou de sites américains.
Ou de sites américains
qui sont,
comme New York
Times. Donc, il y a une redondance, en fait, un cache,
une copie,
un,
voilà.
un miroir. Beaucoup plus près de chez nous.
Pour exactement.
Qu'on puisse, enfin, pour que finalement on ne sollicite pas des milliers de kilomètres pour faire la requête et pour qu'on ait l'instantanéité de l'info, en fait.
C'est ça, exactement. Et puis ça sert aussi
Netflix
par ailleurs.
Netflix fait beaucoup ça, YouTube,
pour les YouTube, vidéos. Voilà, tout ce qui consomme beaucoup de bandes passantes, comme on parlait précédemment. Donc les gros fichiers de musique.
Il faut savoir que c'est très local. Hein. Ça peut être. Vous avez des redondances comme ça dans certaines régions. YouTube a des téraoctets de données parce qu'ils savent que grâce à l'intelligence artificielle, c'est telle vidéo qui va être demandée le plus. Et donc voilà, tout dépend des vidéos que vous demandez. Elles peuvent être à quelques dizaines de kilomètres de chez vous,
c'est
en fait.
Voilà, exactement. Et donc c'est ce prestataire-là qui a eu un problème informatique.
C'est alors pas bon.
Ils ont dit hier que ça venait d'un de leurs clients. Qui aurait mal paramétré quelque chose, donc c'est assez fou pour l'instant.
C'est fou quand même, donc, un client peut foutre en l'air tout le système.
Ça paraît un peu étonnant.
Bon, là, attendez, je vais appuyer sur quel bouton, là ?
Bon, après,
j'appuie sur celui-là, allez, on va voir.
On jette généralement la patate chaude à quelqu'un d'autre,
oui,
on
voilà.
essaie de faire...
C'est
voilà.
ça.
Donc, ils n'ont pas donné le nom du client, évidemment. Donc, il y aurait eu une intervention sur un logiciel qui aurait effectivement suscité cette panne. Alors, ce n'est pas une panne de l'Internet, hein, c'est une panne clients de cette entreprise, de Fastly, donc il y en a beaucoup. Et donc, ça souligne aussi d'une part une forte dépendance à ces CDN, à ces Content Delivery Networks. Et alors j'ai vu beaucoup de gens se dire mais c'est quand même fou que des grands sites comme Le Monde, comme Amazon, etc. ne redondent pas et n'aient pas plusieurs CDN et mettent tous leurs œufs en gros dans le même panier. Alors il faut savoir qu'en France on avait un acteur qui s'appelait Cedexis qui justement palliait à ce genre de choses. Donc vous étiez abonné à Cedexis et Cedexis en fait avait des puisqu'ils ont été vendus mais ils existent toujours, donc a des accords avec tous les grands CDN de la planète et donc en fonction du prix, en fonction de l'embouteillage un peu sur de ces différents réseaux, il aiguille votre trafic vers l'un ou l'autre des CDN. Donc c'est un super CDN, si vous voulez, c'est un agrégateur de
un
CDN.
Un routeur de d'accord.
Exactement, c'est il se place ça. Un peu en intermédiaire entre un CDN. Donc au lieu de passer des contrats avec tous les CDN, et ben en fait il se met en intermédiaire et c'est lui qui s'occupe de ça. Donc cette panne là montre que ce type d'intermédiaire, en fait, peut avoir son utilité.
Et visiblement, les sites qui sont tombés en panne n'étaient pas clients
visiblement non. Ben non, ils étaient en direct, visiblement, avec Fastly, parce que c'est ceux qui n'avaient que ce fournisseur-là.
Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui étaient clients, donc, visiblement, le service continuait de marcher, alors.
Oui.
C'est assez intéressant. Hein mais c'est passionnant. Hein, c'est des parties du web un peu sombres qu'on ne connaît pas trop. Mais alors, quand on commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, en tout cas pour le grand public, c'est passionnant.
Oui, c'est de l'Internet en fait. On est plus dans du réseau que du web. Parce que le web, c'est les contenus qui s'affichent, etc. Donc on est vraiment sur. On est dans du dur. On est sur du.
Mais on ne se rend pas compte que finalement, voilà, quand on appuie sur.
Quand on tape une adresse, il se passe plein de choses.
Voilà, il se passe plein de choses. Et puis, voilà, c'est pas parce qu'on va sur New York Times que ça part à New York, quoi. Non, mais non, ça peut aller à Vélizy.
C'est ça, exactement.
Enfin, je sais pas où, mais bon, pas loin en tout cas. Mais en tout cas, tout est vite revenu.
Tout est vite revenu.
Finalement,
voilà.
ça a été assez bien géré. Hein. C'est très vite revenu, finalement. On va parler de Google maintenant. Tiens, Google qui a été condamné pour cette fameuse histoire de publicité en ligne. Je pense que Manuel, tu peux nous revenir un petit peu sur cette histoire-là, qui dure depuis pas mal de temps. Hein,
ça dure
déjà.
Depuis un certain temps. Alors, ce qui est important, c'est que la France est le premier pays au monde à condamner Google sur le display, hein, donc les bandeaux hein, de publicité. On n'est pas sur le AdWords ou qui est directement dans Google.com ou Google.fr. Là, on est sur les bandeaux publicitaires affichés sur les sites tiers, donc notamment des éditeurs de presse. Ça peut être 01, ça peut être l'Express. Hein, et là, effectivement, Google a deux éléments d'intégration qu'on appelle verticale dans la publicité. D'une part, des serveurs pour la publicité, pour afficher cette publicité, donc pour stocker et afficher la publicité des éditeurs.
Ils font que ça.
Voilà, exactement. Et de l'autre, une plateforme d'achat de ces bandeaux sous forme d'enchères. Et en fait, ce qu'a découvert l'autorité de la concurrence, c'est que dans les deux cas, donc Google se calait sur le prix de marché et se prioriser par rapport à la concurrence, en fait. Hein. Donc, et donc, Google était toujours le mieux disant, et donc gagnait quasiment toujours sur les offres d'enchères, etc. Donc, et pour le coup, l'autorité de la concurrence a estimé que Google était non seulement en position dominante sur la publicité sur les bandeaux, mais en plus avait abusé de cette position-là pour devenir encore plus puissant. Et donc, ils ont mis une amende de 220 millions d'euros, hein, donc c'est pas rien. Et surtout, Google a reconnu que c'était vrai. Donc, ils n'ont pas contesté.
Ah ouais.
Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a de fortes chances que cette décision fasse boule de neige dans plein d'autres pays, puisque
bien sûr,
ça, s'ils l'ont fait en France.
Oui, c'était une stratégie qui était, on va dire, internationale.
Exactement,
pour,
hein, c'est pas la France qui a pris la décision toute seule. Donc, c'est vrai que ça va faire boule de neige et qu'il y a de fortes chances. À la fin, je pense, ouais, aux États-Unis, dans d'autres pays, l'Allemagne aussi regarde ça de près. Donc, tout ça va s'additionner et ça peut faire une grosse amende à la fin.
Ouais, 220 millions rien que pour la France. Ça commence à être sympa. Hein.
Ça commence à être un peu plus élevé que tout ce qu'on a vu pour l'instant. Ouais.
Admettons, allez, une centaine de pays, on va dire, voilà, allez, une centaine. Bah, 220 millions multipliés par 100.
Ouais.
Ça commence à
faire une grosse facture.
Ça commence à faire pas mal. Hein. Bon, on verra, ça prendra de toute façon des années. Là, il n'y a même pas d'appel. Hein. Ils acceptent,
ils
vont payer 220 millions.
C'est un accord.
Et où va tout cet argent? Tiens, c'est la question que je me posais. Alors, c'est 220 partie... millions, c'est, ça va servir à...
Ah, ça va dans les caisses de l'État.
Les caisses de l'État, d'accord.
Ouais, pour moi, oui.
Il
n'y
a pas... Enfin, ceux qui ont été victimes de ce truc-là ne sont pas dédommagés, en fait. Puisqu'il y a des victimes.
Je ne crois pas. Oui, mais non, à ma connaissance, non.
Non, c'est une amende.
Oui, exactement.
Très bien. On enchaîne avec eh bien, l'Euro 2020. C'est pour bientôt. Nicolas est dans les starting blocks, hein, puisqu'il faut savoir qu'il est quand même fan de football. Tout comme Jean-David Duarte qui réalise cette émission.
Qui nous a fait de mauvais coups, vous allez
voilà,
voir.
Avec Kevin aussi pour l'audio. Et ce qui se passe, c'est que bon, si vous êtes avec nous sur 01 TV, vous verrez quelques images de matchs de foot plutôt... du côté du Portugal, visiblement.
Il faut savoir que Jean-David est franco-portugais.
Et voilà.
Il penche plutôt du côté portugais.
Il est plutôt portugais-franco.
Et je crois qu'il a décidé de passer quelques images pendant cette émission qui ne vont pas faire plaisir aux supporters
aux
de l'équipe de France. Voilà,
c'est ça. D'accord.
Il faut faire avec. Hein.
Donc, l'Euro 2020, parce que c'est l'info, enfin, que Jean-David aime bien le Portugal, ça c'est une information déjà importante.
C'est une information, oui.
Mais qui n'est pas capitale par rapport à ce qu'on voulait vous annoncer, c'est que l'Euro 2020 va être filmé en 4K. C'est pas la première fois. Hein. Ça fait des années qu'il y a des retransmissions 4K, Roland-Garros, etc. Le seul truc, c'est que tu vas nous dire un petit peu où est-ce qu'on pourra voir en fait, ces flux 4K, Nicolas.
C'est ça,
c'est pas gagné.
C'est comme en 2018, la Coupe du Monde était déjà diffusée en 4K et on avait fait plein d'articles à cette occasion parce que c'était compliqué, ça marchait pas bien, il y avait une différence entre la 4K HDR et la 4K SDR, il y avait des problèmes de cadrage, c'était pas le même cadrage entre la 4K et le Full HD. Bon bref, c'était très moyen. Du coup, je me suis demandé si ça s'était amélioré cette année. Déjà en termes de diffusion, non, ça ne s'est malheureusement pas amélioré.
En plus, ils ont eu un an de bonus hein, avec le confinement. Pour
ils auraient pu tenter d'améliorer le truc. Après, là, c'est des histoires d'accords commerciaux. Hein. L'Euro est diffusé par trois chaînes, donc TF1 et M6 qui se partagent les matchs gratuits et Bein Sport qui va diffuser l'intégralité de la compétition. Ça nous fait donc trois chaînes 4K, TF1 4K, M6 4K et Bein 4K. Jusque-là, c'est assez facile. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul opérateur en France qui va diffuser les trois chaînes, c'est Orange, qui du coup aura TF1, M6 et Bein en 4K directement depuis ses décodeurs. Chez Bouygues...
En espérant que ça marche, qu'on n'ait pas
en
le problème de...
En espérant que ça marche, j'ai pas encore confirmation de tout ça, mais il y a de grandes chances que ce soit de la 4K SDR sur les box des opérateurs et qu'ils ne prennent pas le risque de refaire de l'HDR parce que ça n'avait pas bien marché.
Mais parce qu'il y a HDR et... SDR, en fait, hein.
Oui, HDR, c'est mieux. Oui. Il faut le voir comme ça.
Mais c'est mieux quand ça marche.
Quand
parce que si ça marche pas, c'est moins bien que le SDR. Je sais pas si vous suivez
HDR,
un petit peu.
Il y a plein de normes, il y a le Dolby, il y a l'HDR10, il y a plein de choses.
Voilà,
ça rend la diffusion très compliquée. Le deuxième opérateur qui s'en sort pas trop mal, c'est Bouygues Télécom, parce qu'il a à la fois TF1 et M6. Donc vous allez avoir tous les matchs gratuits en 4K si vous avez une B-Box de dernière génération. Et chez Free, vous n'allez avoir que TF1. Donc déjà, y a quelques matchs, dont la finale, je crois, que vous n'aurez pas en 4K chez Free. SFR, c'est le plus grand perdant de cette histoire parce qu'il n'y a aucun match diffusé en 4K sur les box SFR parce qu'ils n'ont ni TF1, ni M6, ni Bein Sport en 4K. Tiens. Je ne sais pas pourquoi.
On n'est peut-être pas à l'abri d'une annonce dans les jours qui viennent.
Ça me semble peu probable. Généralement, c'est des accords qui sont dealés largement en avance.
D'accord.
Je crois que Free, dans le cas de
parce
son accord
comme Free
avec TF1...
On est jeudi, hein, Free a communiqué aujourd'hui en fait.
Il a communiqué aujourd'hui, mais je crois que la chaîne était revenue il y a un ou deux mois après avoir disparu pendant un an. Donc c'était quand même... C'est quelque chose qui avait avancé en avance. avant. Et je pense pas que ce soit non plus la priorité des opérateurs. C'est comme le lossless, on parlait tout à l'heure sur la musique. Je pense que l'euro en 4K, ça n'intéresse que les geeks. Et il y a pas grand monde qui va.
C'est
les gens s'en foutent. Ils veulent juste voir le match en grand, sur un grand écran.
Donc, c'est un peu comme le lossless.
C'est exactement la même chose. Par contre, et ça va être ma recommandation si vous êtes un fan de foot ou au moins un fan de 4K et vous voulez vraiment profiter de l'événement.
Alors attention, je fais le jingle. L'astuce de Nico.
J'aimerais bien qu'on ait un jingle comme ça.
Faudrait que je fasse celui d'Emmanuel après, je sais pas quand, mais
faut qu'on réfléchisse.
J'ai pas beaucoup d'astuces.
Bon, pour revenir au sujet, mon conseil, ça va être de prendre Bein Sports, non pas directement depuis le site ou depuis votre opérateur, mais depuis MyCanal. Il y a des offres sans engagement en ce moment qui coûtent entre une trentaine d'euros par mois. Vous pouvez le prendre donc un seul mois. L'avantage, c'est que vous allez avoir Bein Sports, mais aussi tout le catalogue Canal+, donc vous avez le temps de bien en profiter pendant un mois.
Et, donc vous oubliez les restos, les terrasses, tout ça, les sorties des bars, c'est pas la peine, hein.
Oubliez, parce que l'euro, hein, ça
ouais,
va.
Un mois de plus ou un mois de moins, ça changera
ça,
pas.
Ça changera pas grand-chose. MyCanal proposera Bein en 4K sur pas mal d'appareils, donc le décodeur Canal+, logiquement, l'Apple TV, la box Nvidia Shield, les smart TV de Samsung et Sony, et puis la Freebox Pop et la Bbox Bouygues Telecom, qui sont sous Android, donc vous pourrez télécharger l'application MyCanal. Donc c'est l'offre au final la plus complète si vous voulez avoir les matchs en 4K, d'autant plus que Bein Sports, ils vont diffuser l'intégralité de la compétition. Ça fait, j'ai noté, 51 matchs. Donc c'est, si vous avez l'abonnement Bein Sports, vous pouvez avoir tous les matchs. Il y en aura 45 diffusés en 4K, et c'est au final le meilleur moyen de l'avoir, peu importe votre opérateur, d'autant plus que si tout va bien, si c'est comme en 2018, ça sera uniquement les Apple TV et quelques appareils haut de gamme qui auront les matchs en 4K HDR.
Voilà. Après, bon, le seul petit bémol, c'est les commentaires, quoi. Il y en a qui préféreront peut-être les commentaires de TF1, hein, d'autres d'M6.
C'est sûr que si vous voulez réentendre Bichente Lizarazu et Grégoire Margoton crier second poteau pavard, ça sera pas sur Bein Sports, mais au moins ça sera en 4K.
Voilà. Après, il faut faire un choix, hein. Ou alors, le top, c'est que vous baissez le son et vous mettez RMC Sport, hein. Bah, on est corporate ou pas, les amis?
On peut. Après, le problème, c'est qu'il faut synchroniser.
Oui, il faut synchroniser parce qu'il y a parfois du décalage.
La radio va être en avance en plus 4K, ça c'est certain.
Mais au-delà de ça, si on prend un peu de recul, on se rend compte que la 4K, ça fait des années qu'on nous bassine avec ça. C'est vrai, ça fait des années, finalement.
Ouais.
Et les événements directs ne sont pas couverts. Les grandes chaînes comme TF1, M6 n'ont pas décidé de passer à la 4K. Hein, elles sont toujours en full HD. C'est étonnant, hein, qu'il n'y ait pas une volonté quand même de la part de ces gros diffuseurs, de ces gros networks, de passer 100% en 4K.
Ouais, alors il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a la base installée de téléviseurs 4K, elle n'est peut-être pas encore suffisamment.
Enfin, ouais, mais ça commence à être pas mal quand même maintenant. Hein,
ça commence, mais comme les taux de renouvellement des téléviseurs, bah, c'est quand même 5, 6, 7 ans, enfin, il faut attendre aussi que tout le monde s'équipe. Autre chose, c'est que, alors on ne le dit peut-être pas suffisamment, hein, mais c'est qu'il y a quand même 40% des foyers qui reçoivent la télévision par la TNT et pas par la box. Donc c'est 60% en gros, hein, par les box aujourd'hui.
Et tu sais que sur la TNT, on a de la 4K. Hein. Par exemple, avec Roland-Garros, qui se déroule en ce moment, sur Paris, Roland-Garros est émis en 4K sur un canal dédié.
D'accord, mais je ne sais pas si c'est sur l'euro, c'était ma question, hein, si c'est sur l'euro, il y aura un canal TNT.
Non, c'est vraiment les acteurs que j'ai cités, c'est les trois opérateurs Orange, Bouygues et Free.
Oui, sur la TNT, en fait.
Et l'OTT uniquement avec Canal et Bein Sports.
Oui, d'accord, c'est ça.
Et en fait, Roland-Garros est diffusé en 4K dans la région parisienne, et je crois que c'est Toulouse et une autre ville.
C'est pas au niveau national, alors.
C'est pas au niveau national. C'est une expérimentation.
C'est des tests. C'est France TV Sport 4K.
Oui, ça fait 10 ans qu'ils font ces tests.
Oui, ils font des tests depuis longtemps.
Alors, tant mieux, hein, tant mieux. Mais voilà, ça fait 10 ans qu'ils font ces tests.
En même temps, on nous parle pour 2024, pour les Jeux Olympiques de Paris, on nous parle de 8K. Donc déjà, si en 2021 on fait pas de 4K,
en 3 ans il va falloir booster, les gars, quand même. Hein.
Avec des téléviseurs qui, pour le coup là, sont très chers et pas encore entre les mains des gens. Mais bon, voilà, c'est Orange qui va diffuser en 8K a priori, de ce que j'ai compris, les Jeux Olympiques de 2024.
Ouais.
Bon, on verra.
C'est étonnant parce que finalement la 4K, et on plaisantait tout à l'heure quand on faisait le rapport avec le lossless, mais c'est pas tout à fait pareil parce que quand on a une grande taille d'écran, on voit la différence en 4K.
Non, mais là c'est pas uniquement les gens qui ont les jeux.
Voilà, on le voit, ou alors il faut être complètement myope et être comme une taupe, quoi. Mais autrement, on voit la différence et on peut imaginer que même sur des émissions de flux, hein, The Voice, enfin toutes ces grosses émissions qui rameutent des millions et des millions de gens, le fait de passer en 4K, ça aurait du sens.
Mais on y gagnerait. Aujourd'hui, c'est vrai que la 4K est généralisée sur les services de streaming, donc c'est très populaire sur le replay, mais c'est encore très rare sur la télévision
en direct.
Il faut reconnaître que ça se réserve que à quelques événements sportifs, donc le football,
oui, la qui sont Formule des 1. Événements un peu premium, star.
Exactement, voilà. C'est là, et encore, c'est pas devenu la norme.
Non, hein, non.
C'est des canaux événementiels 4K qui vont être actifs uniquement lors de certaines rencontres.
Souvenez-vous, alors je suis désolé, ça fait aussi un peu vieux de la vie, mais quand la haute def est arrivée, je me souviens quand on discutait avec les chaînes de télé, leur gros problème, c'était que plus on augmente en définition, plus on voit les défauts. On voit les défauts sur un plateau, notamment. Mm-hmm. C'est-à-dire les petits morceaux de peinture qui s'écaillent. Et on voit même les défauts des visages des animateurs qu'on ne voyait pas en basse def. En basse def où on voit beaucoup plus les rides de certains.
On m'a c'est même donné des noms.
C'est
pour ça qu'on hésite, nous, à passer en 4K dans ce studio.
Non, mais du coup, même pour les chaînes...
C'est peut-être pour ça, alors.
Ça demande aussi une adaptation du côté, du côté plateau, hein. Pas un match de foot.
Et donc forcément, ça a des coûts supplémentaires.
Exactement. Hein,
des coûts de captation, de régie.
Avec toutes les compétences techniques dont on parlait.
C'est-à-dire diffusion.
C'est plus cher avec les caméras, mais après la diffusion, c'est des gestions de flux hyper compliquées, avec la possibilité de mal encoder, d'avoir une colorimétrie dégueulasse sur certains téléviseurs et pas sur d'autres. Ça rend le truc un peu plus complexe qu'une diffusion en Full HD qui est vraiment rentrée dans les normes.
Après, il y a un truc, et on en parlait ensemble, hein, Amazon Prime Vidéo qui diffuse Roland-Garros en ce moment le soir, c'est pas en 4K, c'est en Full HD. L'image est très bonne, hein. C'est vraiment c'est très propre, mais Amazon qui a énormément de contenu en 4K, en direct, reste en Full HD. Là encore, c'est assez étonnant. Bon, voilà, on rentre dans des détails techniques, mais autant vous dire qu'on aime bien la télé, vous l'avez sans doute remarqué. On va parler de Micromania dans un instant avec Emmanuel, mais auparavant, Google, qui préparerait un Pixel. Donc, vous savez, c'est les fameux smartphones Google tout intégrés, hein, avec donc le hardware signé Google, le soft, évidemment, Android optimisé avec des mises à jour, etc. Un Pixel pliable pour cette année.
Oui, tout à fait. C'est pas la première fois dont on entend parler de cette rumeur, mais ça a l'air quand même de bien se concrétiser. On apprend par le journal de Korea Herald, donc qui est le journal de référence en Corée, et qui est surtout celui qui a le plus d'informations fiables sur Samsung, parce que voilà, évidemment, Samsung étant coréen, ils ont de très bonnes sources là-bas. Mm-hmm. On apprend que Vivo, Xiaomi, Oppo et Google auraient commandé des écrans pliants à Samsung, que la production commencerait en fin d'année, et que Google aurait en effet pour objectif de lancer son premier Pixel pliant dès la fin d'année. C'est assez étonnant comme annonce, parce que Google a l'habitude quand même d'être un peu en retard sur le matériel.
Ils sont plutôt suiveurs.
Exactement, ils n'essayent pas, Google, de changer l'industrie, ils essayent de faire un produit clean, qui reprend
propre.
Un petit peu le reste. Là, ils seraient quand même le deuxième vrai constructeur après Samsung à s'y lancer, parce qu'on a eu des téléphones chinois, mais ils ne sont pas vraiment sur le marché.
Et puis ils mettent souvent l'accent sur le soft, en fait. On le voit, c'est pas le meilleur appareil photo, c'est pas le meilleur écran, mais en revanche le soft fait qu'on va se retrouver avec des super photos parce qu'il va avoir tout un traitement derrière, etc. Là, franchement, il y aurait un gap avec un hardware haut de gamme, forcément, puisqu'on est sur du pliant.
Évidemment qu'il y aura un gap, on parle d'un écran de 16,6 pouces pliant. Tu parles du logiciel à juste titre, et ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je pense que les rumeurs sont quand même fondées, c'est qu'il y a eu à peu près un mois, on avait la Google I.O., qui est le grand salon développeur de Google, et à cette occasion, il y a eu une conférence entière dédiée au pliant, après, donc dans les sessions, et où Google explique aux développeurs, c'est très important, on vous a mis des API pour que vous adaptiez l'application, et ce que Google veut, c'est que quand une application s'ouvre, il y a une animation pour la voir s'agrandir. Dire sur
quelque chose de propre.
C'est vraiment quelque chose de propre. Alors que Samsung, c'est moi, j'adore le Fold, hein, vous le savez, mais on sent que c'est un peu de la bidouille, qu'ils ont adapté Android à ce changement de format, et Google veut vraiment faire quelque chose de clean pour que le pliant soit la norme.
D'élégant.
Quand le produit soit plié en deux, que ce soit adapté aux deux parties de l'écran avec une vraie interface qui s'arrête au milieu là où c'est plié. Donc, le fait qu'Android soit vraiment en train de s'adapter aux clients montre que, au-delà de préparer pour les autres constructeurs, parce qu'évidemment Google répond aux demandes des autres marques, Google y croit. Google se dit, là il y a un marché à prendre, ça va peut-être remplacer la tablette, ça va peut-être faire des choses. On a grand intérêt à vite adapter le pliant, peut-être avant Apple, donc ça me paraît logique qu'ils aillent là-dessus.
Emmanuel, le pliant, bon, c'est Apple aussi qui, encore une fois, qui donnera le là, non ? Quand ils sortiront...
On ne sait pas trop où ils en sont.
Non, mais...
parce que pour l'instant, je pense que ce n'est pas prévu pour cette année. Ni...
Non, c'est vrai.
On parle de 2023, 2024, d'après certaines rumeurs, c'est des rumeurs.
Oui.
Et
puis peut-être qu'ils n'ont rien dans les cartons, peut-être qu'ils n'y croient pas. On verra bien. Hein.
Parce que la première génération, pour l'instant, à part d'écran pliant ou pliable, n'a pas vraiment convaincu. Hein.
Alors... Elle a convaincu Nico. Tu sais que Nico aime beaucoup le Fold, hein, notamment le Fold 2 hein, qui est sorti.
C'était le deuxième.
C'était le deuxième. C'est vrai. Oui, bon, on verra bien comment ça va se goupiller
faut,
tout
faut
ça.
On va voir là, parce que cet été, on va avoir les nouveaux clients chez Samsung avec une rumeur comme quoi les prix vont tomber de 20% par rapport à l'année dernière sur les deux produits. Donc on aurait du flip aux alentours de 1000 euros et du fold aux alentours de 1500 euros. Donc déjà,
ça
commence à atteindre des prix haut de gamme sur les téléphones non pliants. Mmh. C'est intéressant.
Ça devient sympathique. Pour terminer, eh bien, on va évoquer Micromania. Vous savez, c'est le grand distributeur de tout ce qui touche aux jeux vidéo, hein, l'univers du jeu vidéo avec les consoles, etc. Et qui innove, Emmanuel, avec un nouveau service.
Oui, alors de location de consoles fixes, donc la PlayStation 5 notamment. Et donc effectivement, on peut louer la console, ce qui revient assez cher. Hein. Je pense que Nicolas donnera le détail des prix. Et surtout, c'est pas ce qu'on appelle un leasing, c'est pas un credit buy, c'est-à-dire on n'achète pas la console à la fin.
Ah oui, on la loue vraiment.
On la loue et on la rend à la fin.
D'accord.
Alors pourquoi ? Alors, je pense que le credit buy, il y a simplement des institutions financières qui peuvent le faire, des banques notamment, mais Micromania en tant que tel ne peut techniquement, je pense, pas le faire. Il faudrait qu'il s'associe à une banque, parce que le leasing, c'est vraiment quelque chose d'encadré.
Oui, c'est quelque chose qui est très encadré.
Exactement. Donc, par exemple, même ça existe dans l'automobile depuis très longtemps, mais c'est vrai que généralement, les constructeurs automobiles sont... partenaires d'une banque ou détiennent leur propre banque de financement en interne.
Oui.
Et donc ça permet de mettre en place des systèmes de leasing où effectivement on achète plus ou moins à crédit son véhicule. Hein. Donc c'est une forme déguisée de crédit tout simplement, avec option d'achat à la fin. Là c'est pas du tout le cas, hein. C'est purement
c'est vraiment,
location.
C'est de la location.
Voilà. Et qui in fine revient assez cher, oui, effectivement.
Et bon...
Je vais être très très dur. Hein. C'est
c'est lossless.
J'ai jamais vu une arnaque pareille sur lossless. Le milieu du jeu vidéo. J'en ai fait un article. J'ai poussé un coup de gueule. J'espère vraiment que Micromania va se rendre compte du côté aberrant de l'offre qu'il propose.
Tu as un peu les détails prix, ou pas?
J'ai les détails. J'ai noté tout ça. À chaque fois, il y a trois offres. Il y a une offre où on loue que la console. Et après, il va y avoir une deuxième offre, on loue la console, une deuxième manette, et on a une garantie contre la passe, contre la casse et contre la panne. Je fais un mélange entre les deux. Et une troisième offre où on va avoir la possibilité de migrer vers une éventuelle successeur si une successeur sort dans les deux ou trois ans. Ce qui est à peu près sûr que ça n'arrivera pas
non,
sur la PS5.
Donc,
autrement dit, ils ont ajouté beaucoup de services qui servent pas à grand chose, mais bon, au moins il y a les services, ça peut rassurer les gens. Au moins cher, la PS5, elle va revenir à 472 euros au bout de deux ans. Donc c'est 20 euros de moins que le prix de base. Et au plus cher, avec le forfait maximum, elle va vous revenir à 770 euros. Donc là, on s'est pris quand même quasiment 300 euros de plus sur tout ça.
On n'a pas les jeux, là.
Non, non,
on n'a pas les jeux,
on n'a pas les abonnements PlayStation Plus, tout
voilà,
ça et compagnie.
Ça,
bon, dans le cas de la Nintendo Switch, au moins cher, elle reviendrait à 342 euros. Alors qu'elle coûte 300 de base, elle n'est pas vendue avec une seconde manette, là, ou quoi que ce soit.
Et encore, quand tu dis ça... la console nous a...
C'est ça,
au bout de deux ans, voilà.
Je vais venir. Au plus cher, on arriverait à 524 euros avec une paire de manettes en plus. C'est d'autant plus scandaleux que la Switch, elle est en fin de vie et qu'on sait qu'il lui reste quelques mois et qu'elle va être remplacée. Donc on vous loue une console qui, au final, est déjà obsolète. Donc moi, ce qui me pose problème dans ce service, c'est que qu'on aille sur la location de console, complètement, ça a du sens parce qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir jouer que trois mois. Là, ça n'a pas de sens parce qu'il y a deux ans d'engagement. Donc vous êtes obligé de payer... pendant deux ans, vous ne pouvez pas la rendre au bout d'un moment.
Franchement, pour un week-end, ça a du sens. Vous êtes avec des potes, les copines, les femmes ne sont pas là, vous vous levez... Non, mais c'est vrai,
Ça
vous voulez une
sens.
PlayStation 5 et vous vous faites un week-end à fond, ça c'est cool, parce qu'en plus, il n'y en a pas. Donc c'est plutôt sympa. C'est vrai.
C'est sûr que
tu confirmes, Emmanuel, qu'il n'y en a pas. Hein. Tu l'as toujours pas, toi.
Toujours pas.
Ouais. Non, mais dans le concept de location serait pas mal, sauf que là, c'est forcé pendant deux ans, donc c'est clairement une sorte de crédit. Sauf qu'à la fin, ils la reprennent. si on fait un service de location, à la fin, ils la reprennent, mais que c'était moins cher. On pourrait dire pourquoi pas, ça permet aux gens d'accéder à la console. Là, on paye quasiment 30 à 40% de plus par rapport au prix de base. Alors qu'on doit rendre le produit, à la fin, au final, on a dépensé plein d'argent pour rien. Que ça n'a aucun sens. Le fait de rendre le produit, ça tue tout le concept. Ça n'a absolument aucun sens.
Bien sûr.
Il n'y a pas de service. Il y a les services qui sont inclus, la panne garantie contre la casse. C'est une location de deux ans. Elle ne va pas se casser au bout de deux ans. Et dans tous les cas, il y a la garantie constructeur qui couvre le prix pendant deux ans.
On n'a pas toujours sa console sous le bras. Quoi.
Non, mais c'est
pas comme un smartphone.
Comprends pas en fait, comment ils ont pu sortir un tel service. Soit tu fais un service de crédit long terme, à la fin, tu la possèdes, payer 300 euros de plus, mais bon voilà, il y a des gens, ils peuvent pas payer 500 euros d'un coup, mais ils peuvent payer 40 euros tous les mois. Ok, bah alors dans ce cas-là, pour eux, pourquoi pas. Mais si à la fin, on leur reprend la console, on les a juste arnaqués. C'est surtout avec un truc, avec un engagement. Je comprends pas. J'espère que Micromania va se dire, ok, c'était,
on
s'est mal renseigné, tout ça. D'autant plus que
on s'est mal renseigné.
Juste en comparaison, l'offre concurrente qui s'appelle Xbox All Access, qui est proposée par Microsoft, elle va vous coûter moins cher. Elle inclut le Xbox Game Pass, l'abonnement, et à la fin, la console, vous la gardez.
En plus.
Donc, et Micromania la propose cette offre.
Hein. Ah
donc,
oui, c'est ça.
C'est comment ils peuvent sortir en fait, ils truc comme ça. Je ne comprends pas, moi, ça me dépasse.
Ils surfent peut-être sur la pénurie de consoles. Ils réservent peut-être certaines consoles pour ce modèle-là.
Non, mais justement, ils disent que non. Ils disent qu'on se met sur liste d'attente et qu'on sera servi après les gens qui sont déjà sur liste d'attente. Ça d'accord. n'a aucun sens.
Non,
et ils vont,
non mais
ils vont
j'essaie de trouver un truc.
Non, mais j'essaye aussi.
Je pourrais même pas être un bon avocat pour Micromania, finalement.
J'essaye de comprendre depuis que j'ai découvert cette information, mais je pense très sincèrement qu'ils se sont dit, bon, on va... ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez acheter la console, on va dire, vous voulez payer 500 euros ou vous voulez payer 25 euros par mois? Ah bah c'est peut-être mieux de payer 25 euros par mois. Et ils vont tenter peut-être d'avoir des gens comme ça, mais à la fin, bah, ils rendent la console, elle n'est pas eux, donc c'est
alors c'est en aberrant. Fait, on aurait beaucoup plus accepté finalement un prix beaucoup plus élevé pour un week-end, je dis n'importe quoi, 50 euros,
oui,
voilà,
oui.
Parce
bah,
qu'on se dit, on est peut-être 4-5 potes, allez, ça nous fait 10 euros chacun et on se retrouve avec une PlayStation pendant 2 jours. Là, ça aurait été.
Mais finalement, dans ce cas-là, pourquoi pas
très payé très cher, mais pour 2 jours, parce qu'on en a besoin ponctuel où on va s'éclater et puis on la rend après. Là, ça avait du sens. Mais sur un engagement de 2 ans, ça n'a pas de sens.
Je suis d'accord. Bah, c'est un prêt.
Bah, ça ressemble à la copie du modèle des opérateurs télécoms avec les box, en fait. Sauf qu'on a l'accès à Internet avec.
Oui, voilà,
donc,
c'est ça.
Là, si donner l'accès au PlayStation Plus ou à l'Xbox. Alors, il n'y a pas l'Xbox, là, a priori, pour l'instant. Mais,
non, il n'y a pas l'Xbox. Bah, c'est compliqué de faire un service comme ça alors que Microsoft en propose un qui la laisse à la fin et voilà,
qui est plus intéressant.
Ils disent que ça va arriver sur Xbox, mais j'y crois très peu. Je vois pas comment ils peuvent faire pareil sur Xbox.
Bon, écoutez, voilà, on vous avertit maintenant. Hein, si vous avez envie d'enrichir Micromania, pourquoi pas, hein, c'est votre droit.
Mais sinon, achetez-la, faites un crédit sur plusieurs fois. Enfin, il y a souvent des paiements différés, mais on vous en supplie, ne vous faites pas avoir par Micromania.
Enfin, quand on vous dit achetez-la, si vous en trouvez une,
oui,
hein,
si
c'est
vous
toujours
la voulez
pareil.
Aussi,
hein,
c'est...
Merci à tous les deux. Merci Emmanuel.
Merci François.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. C'est Nicolas Lelouch, journaliste à 01net.com.
Merci.
Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis pendant cette petite heure dédiée à la tech. Le hashtag des QGMM, bien sûr, pour nous suivre. On sera là, bien évidemment, le week-end prochain. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.